Vous écoutez RTL.
18h. RTL Soir, Marc Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos et à la une, le gouvernement ne freine pas sur les 80 km/h. La fronde des élus locaux n'y changera rien. La vitesse maximum autorisée sur les routes nationales et départementales sera bien abaissée de 10 km/h à partir du 1er juillet. Mais le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, annonce qu'une évaluation du dispositif sera effectuée en 2020. Vous entendrez les réactions à cette mesure contestée et impopulaire. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
La mairie de Paris bernée par des PV bidons. L'une des sociétés chargées de contrôler le stationnement a bidouillé pour faire du chiffre, des prunes virtuelles en quelque sorte. On vous explique tout dans un instant. La révolte d'Éric Péclet, cet instituteur de Côte d'Or, a été accusé à tort d'avoir violé l'une de ses élèves. L'ADN désigne un autre homme qui n'est toujours pas poursuivi. L'enseignant en appelle à la garde des Sceaux. Pour en finir avec le deux poids deux mesures, à la veille de la journée des droits des femmes, le gouvernement dévoile son plan contre les inégalités salariales. La guerre de la cacahuète aura-t-elle lieu? Après Donald Trump sur l'acier, c'est maintenant l'Europe qui menace de taxer des produits américains emblématiques. Et puis, Tony Yoka ne baisse pas la garde. Le boxeur est sanctionné pour infraction aux règles antidopage, mais ne redoute pas le chaos. La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,34% à 5187 points. Les courses à la Capelle, il fallait jouer le 7, le 4, le 9, le 10, hélas.
Le PS joue à qui tout double ce soir, événement RTL, LCI, Le Figaro. Le grand débat des candidats à la tête du Parti Socialiste est à 21h. On y revient dans les journaux. À 18h20, le coordinateur du PS, Rachid Temal, sera notre invité. À 18h30, l'analyse d'Alain Duhamel. Après le journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, une guerre électrique entre le Kosovo et la Serbie, à l'origine donc du retard de vos horloges électroniques. Mais y a-t-il d'autres conséquences? Puis direction les coulisses de l'actualité, encore ratées après leur défaite hier face au Real Madrid et leur élimination de la Ligue des Champions, on vous amène en coulisses au PSG. Les portes vont claquer. 18h35, un document RTL. Jawad, le logeur de Daesh, qui a été la risée du web, parle pour la première fois. La justice le soupçonnait d'avoir hébergé des terroristes du 13 novembre. Il a été relaxé il y a un mois. Il y a un appel. Jawad Ben Daoud tombe le masque. Tout à l'heure, donc, 18h35, document RTL. La météo, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Pas de changement pour demain, le temps restera très humide.
Oui, ça reste très instable avec deux perturbations pour demain. Une pour la moitié nord du pays qui donnera de la pluie dans le nord et le nord-ouest jusqu'en Île-de-France. Le ciel sera quand même plus lumineux entre l'Alsace, le centre Val-de-Loire et le Poitou-Charentes. Et puis une deuxième perturbation pour la moitié sud du pays qui remontera d'Espagne vers le Massif central avec quelques pluies et surtout un ciel très nuageux sur toute la moitié sud avec des températures de saison pour demain. Moins 1 à 8 degrés demain matin et 9 à 16 dans l'après-midi.
À tout à l'heure, Patricia.
RTL Soir.
Et la ville de Paris a donc été arnaquée sur ses PV de stationnement. Les voitures n'étaient même pas contrôlées, Isabelle.
Hein. Oui, depuis le 1er janvier, le contrôle du stationnement payant a été confié à deux sociétés privées. Le contrat prévoyait un certain nombre de contrôles chaque jour. Et pour remplir les objectifs, eh bien, l'une de ces sociétés, Striteo, a magouillé avec les plaques d'immatriculation, Arnaud Touche.
Oui, Striteo doit réaliser près de 50 000 contrôles par jour dans la capitale. Mais l'entreprise a vite été dépassée. Voilà pourquoi elle a demandé à certains de ses employés d'effectuer des contrôles fictifs dans une petite salle.
En une journée, on pouvait en saisir les 1000, justement, assis dans le bureau. Ça allait très rapidement.
Alors cet ex-employé a été obligé de le faire avec dans les mains un listing de plaques minéralogiques.
On devait s'amuser à les saisir manuellement dans le portable qui nous sert à effectuer les contrôles. Choisir des motifs en fait qui nous permettaient de contrôler le véhicule mais pas d'émettre de FPS. Tous ceux qui étaient là, on n'avait pas forcément le choix, on nous demandait de venir et de le faire. Mais j'ai tout de suite compris que c'était pour gonfler les chiffres, pour atteindre les statistiques auprès de la mairie de Paris.
Alors nous avons contacté Striteo, elle explique qu'elle s'est engagée à tirer toutes les conséquences de ces défaillances et parle de comportements individuels. Côté mairie de Paris, Christophe Nadjowski, l'adjoint en charge des transports, s'est voulu assez ferme.
Nous exigeons du prestataire Striteo que désormais les contrôles soient géolocalisés de manière à ce que l'on ait la certitude que ces contrôles sont bien effectués sur le terrain. Mais en aucun cas il n'y a eu de verbalisation abusive d'usagers.
Alors la municipalité va faire payer cette défaillance à Striteo 60 000 euros de pénalité et menace de rompre le contrat en cas de nouveau dérapage.
Merci beaucoup Arnaud Touche pour RTL du stationnement. On va passer maintenant donc aux excès de vitesse. À partir du 1er juillet, les départementales seront bien limitées à 80 km/h.
Oui, plus précisément, toutes les routes secondaires sans séparateur, ce qui fait tout de même 400 000 km de voies. La grogne des élus locaux n'y a rien changé. Le gouvernement a confirmé le dispositif avec une évaluation prévue en 2020. Apparemment, Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en parfaite osmose sur le sujet. À l'Assemblée, c'est un peu moins simple. La droite est vent debout et même dans la majorité, eh bien, ça ronchonne, Dominique Tenza.
Ah oui, même dans la majorité, pour une raison simple, hein, parce que sur le terrain, cette mesure, elle passe très mal. Et les élus ruraux en savent quelque chose. Le week-end, sur les marchés, nous expliquent plusieurs députés En Marche, les gens ne nous parlent que de ça. Dans le Calvados, par exemple, Alain Touré ne comprend pas qu'on puisse appliquer cette mesure de façon unilatérale.
N'oublions pas que le maire, il a compétence pour prendre des arrêtés fixant les limitations de vitesse. Donc on peut parfaitement s'appuyer sur les différents maires de France.
Incompréhension aussi chez le jeune Benoît Simian dans sa région du Médoc. Il croise chaque jour des électeurs très remontés. Lui aussi plaide pour davantage de concertation.
Il faut écouter ce qui se passe sur les territoires. Les communes ont en compétence les routes communales, les départements, les routes départementales. Et je crois que c'est eux qui sont à même d'évaluer au cas par cas là où il y a une dangerosité. Et il faut travailler avec les territoires sur ce sujet. Voilà, maintenant je respecte la décision gouvernementale.
Et oui, respect de la décision avant tout, car n'oublions pas qu'on est chez La République En Marche et qu'ici, vous ne trouverez pas de frondeurs, au mieux des députés un peu grincheux qui ne le restent jamais très longtemps, mais qui font tout de même remarquer que cette mesure n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron, à prendre sans doute comme un avertissement.
À l'Assemblée nationale, donc pour RTL, Dominique Tenza. Qui pourra ranimer le Parti Socialiste qui est à bout de souffle? Début de réponse ce soir, peut-être avec le débat entre les quatre candidats.
Débat que vous pourrez suivre sur RTL et LCI en partenariat avec le Figaro. Face à face, les quatre candidats à la tête du PS, Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et Emmanuel Morel. À un mois du congrès, ils auront 90 minutes pour convaincre, 90 minutes aussi pour se faire connaître. Ce débat, c'est vous qui l'animerez, Benjamin Sportouche. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, à quoi peut-on s'attendre?
Eh bien, écoutez, tout est prêt, hein. Ici, les chronomètres, le plateau aussi, hein, aux teintes roses, hein, PS oblige. Et puis, les quatre candidats se sont donc préparés à leur manière. Certains, comme Emmanuel Morel, ont pris un peu de bon temps. Ce matin, le député européen est allé faire une petite marche pour s'aérer l'esprit. Il vient d'arriver pour faire un premier repérage. Il aura donc, en début d'émission, 1 minute 30 maximum pour se présenter. Parce que, à part Stéphane Le Foll, qui fut ministre de François Hollande pendant 5 ans, les trois autres candidats sont peu connus des Français. Emmanuel Morel, donc, le plus à gauche, dirons-nous. Olivier Faure, qui dirige le groupe des députés PS à l'Assemblée. Et enfin, Luc Carvounas, député du Val-de-Marne. C'est lui qui se présentera en premier après tirage au sort. Et puis, on entrera dans le vif du sujet. Trois thèmes au menu. Et d'abord, quel avenir pour le PS? Quel positionnement par rapport à Emmanuel Macron? Opposition frontale ou conciliante sur quelques réformes? Quelles alliances aussi? C'est important. Faut-il tendre la main à Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis? Puis, on en viendra au concret. Quelles propositions pour le quotidien des Français sur le pouvoir d'achat, la fiscalité? On se souvient du ras-le-bol fiscal sous François Hollande, et puis aussi des questions en matière d'écologie. Vous voyez de quoi essayer de ranimer ce débat dont vous parliez. Enfin, dernier thème, l'Europe. Faut-il accueillir davantage de migrants, décider d'une circulaire de régularisation, par exemple, hein, comme l'a toujours fait le PS quand il était aux responsabilités? Vous voyez, le menu est chargé, nos questions sont prêtes, et avec Arlette Chabot de LCI et Guillaume Roquette du Figaro, eh bien, on espère maintenant des réponses. C'est un rendez-vous inédit parce que c'est la première fois, eh bien, qu'un parti débat publiquement pour choisir son chef.
Merci Benjamin Sportouche. Il a passé 4 mois en prison pour rien. Aujourd'hui, Éric Péclet écrit à la garde des Sceaux.
Cet instituteur de Genlis en Côte d'Or a été accusé d'avoir violé une fillette de sa classe, mais il a finalement été innocenté grâce à des analyses ADN. Ces analyses, elles désignent un autre homme proche de l'enfant, mais pour l'instant, rien ne se passe. C'est pour cela qu'Éric Péclet a décidé d'interpeller la ministre.
Ce mois-ci, ça fait un an que la justice détient des éléments ADN incontournables. Donc, comme depuis un an, il ne se passe rien, et que surtout, il y a une enfant qui est en danger, il y a une urgence par rapport à ça, on ne sait plus trop quoi faire, parce que rien ne bouge. Il y a un côté assez choc. Malheureusement, on ne voit pas trop actuellement. Moi, j'ai déjà été choqué l'année dernière en prenant connaissance de l'expertise. Mais il y a un moment donné, on a l'impression que ça ne choque pas les bonnes personnes. Et malgré tout, il ne se passe rien. Donc oui, on est obligé de passer à un moment un petit peu choc pour réussir à faire réagir. On ne voit même plus comment réussir à faire réagir sur cette affaire.
Ça fait quasiment 4 mois que vous êtes hors de cause et pourtant il ne se passe rien.
Voilà, bah, on attend que la justice continue dans ce dossier, mais on a la sensation que ma mise hors de cause n'a pas impliqué la mise en cause de quelqu'un d'autre, alors qu'on sait que cet enfant a été agressé sexuellement, a été violé.
Éric Pecley au micro, RTL de Frédéric Perruche.
RTL soir, 18h09.
On marque une pause et dans un instant, un plan pour en finir avec les inégalités salariales.
RTL sort 18h11, Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Et à la veille de la journée des droits des femmes, le gouvernement s'attaque aux inégalités, Isabelle.
Oui, c'est l'une des grandes causes du quinquennat Macron. Une cinquantaine de mesures doivent être présentées demain en comité interministériel, mais le Premier ministre Édouard Philippe en dévoile une partie dès ce soir à Matignon. Anaïs Bouissou, vous êtes sur place pour RTL. Le gros chantier, ce sont bien sûr les inégalités de salaire. Il y a toujours un écart de 9% entre les hommes et les femmes.
Oui, et rien n'y fait, ni la loi depuis 45 ans, ni les rares sanctions mises en place ces dernières années. Alors le gouvernement veut tenter une nouveauté, un logiciel pour passer au crible tous les salaires. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés devront s'équiper, ce sera obligatoire. Ce sera ce logiciel qui calculera les inégalités. Je vous prends un exemple. Deux vendeurs, un homme et une femme, avec à peu près le même travail, à peu près la même ancienneté, ils devront donc forcément avoir à peu près le même salaire, c'est la loi. Si ce n'est pas le cas, si le logiciel pointe une injustice, alors l'entreprise devra réagir, elle aura 3 ans pour se mettre en règle, pour équilibrer les salaires et pour informer les représentants syndicaux. Ça, ce sont les obligations des entreprises. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, ces entreprises seront davantage contrôlées, le nombre d'inspections sera multiplié par 4 et en cas d'infraction, le gouvernement s'engage à des sanctions financières dont le montant doit être fixé dans les prochaines semaines.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou pour RTL.
Le verdict est tombé chez Airbus. Le constructeur européen va supprimer quelque 3700 postes en Europe, dont 470 en France. Mais sans licenciement sec. L'avionneur doit composer avec la baisse de production des A380 et de l'appareil militaire A400M.
Le bras de fer se durcit entre l'Europe et les États-Unis. Désormais, plusieurs produits américains sont dans le viseur.
C'est Donald Trump qui a déterré la hache de guerre la semaine dernière en annonçant de nouvelles taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Il doit en préciser le détail dans les jours qui viennent. Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner, avait dit le président américain. Elles sont mauvaises et faciles à perdre, lui répond l'Union européenne qui menace à son tour Béatrice Adjani.
Oui, beurre de cacahuète, jus d'orange et réel sont les produits américains qui pourraient être fortement taxés à leur entrée en Europe, en y ajoutant Harley-Davidson, Bourbon et Jeans Levi's. Alors cette liste de produits ressemble certes à un inventaire à la Prévert, mais elle n'est pas du tout composée au hasard. Elle vise les entreprises installées dans les États les plus favorables à Donald Trump. La commission de Bruxelles veut ainsi faire de la dissuasion, dire au président américain « Restons-en là, sinon tout le monde en pâtira ». Bruxelles espère encore que Donald Trump demain épargnera l'acier européen. Parce que ce sont surtout les importations d'acier canadien qui sont les plus importantes aux États-Unis. Mais ce matin, ou plutôt hier soir, la démission du conseiller économique de Donald Trump n'est pas un bon signe. Ce conseiller s'opposait à de nouvelles taxes protectionnistes. S'il part, c'est qu'il a perdu son combat auprès de Trump. Les Européens se préparent donc aussi à des mesures de sauvegarde pour protéger le marché de l'acier, c'est-à-dire pour éviter qu'à l'avenir, l'acier canadien, russe ou mexicain déferle en Europe, à défaut de pouvoir être vendu aux États-Unis. Bref, la Commission se prépare, mais en espérant éviter l'orage.
Merci beaucoup, Béatrice Adjadj. Et puis, Tony Yoka, en mode défense, le boxeur français est rattrapé par les règles antidopage.
Notre champion olympique est en effet suspendu 1 an avec sursis par sa fédération, car il a manqué 4 contrôles inopinés entre juillet 2016 et juillet 2017. En un sens, il s'en tire bien, puisque c'est du sursis, mais ce n'est peut-être pas terminé, Sylvain Charlet.
Oui, car l'Agence française de lutte antidopage va se saisir de son dossier, et elle pourrait alourdir la sanction en infligeant au boxeur plusieurs mois fermes de suspension, une sentence qui le priverait de son prochain combat programmé le 7 avril. Son avocat Arnaud Péricard ne veut pas croire à ce scénario.
Si on commence à dire qu'à chaque fois qu'on passe devant le collège, c'est forcément plus lourd, etc., alors même qu'on ne présente pas ses dossiers, on ne présente pas... Alors ça peut être 2 ans avec sursis. Hein. Il y a un moment, c'est quand même un état de droit et c'est quand même une instance qui est réceptive aux arguments juridiques. Hein. Tony, il assume complètement et je pense que la bonne foi, elle doit aussi être acceptée et on doit aussi la prendre en considération.
Arnaud Péricard, donc optimiste, mais on le rappelle, dans un passé récent, pour les mêmes manquements, Teddy Tamgo, l'athlète, et le lutteur Steve Guéno avaient été privés de compétition pendant 1 an.
Merci Sylvain Charlet. À tout à l'heure Isabelle, 18h30. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Depuis ce matin, on vous explique pourquoi les horloges sur vos fours ou vos radios-réveils retardent. La faute à une guéguerre donc, entre le Kosovo et la Serbie qui refuse de produire plus d'électricité pour son voisin. Mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences pour nous, Virginie Garin ?
Alors apparemment non, mais c'est une situation tellement exceptionnelle que les spécialistes du réseau électrique se demandent si on ne va pas découvrir dans les jours qui viennent d'autres dysfonctionnements. Alors l'origine, c'est une chute importante de la production d'électricité en Serbie pour embêter le Kosovo. Les réseaux en Europe sont tous connectés et quand il y a un déséquilibre entre la production et la demande, ça peut modifier légèrement la fréquence du courant qui est de 50 Hz et qui est passé à 49,99. Or, c'est en fonction de cette fréquence que les appareils électriques règlent tout seuls leurs horloges. Voilà pourquoi elles se sont mises à retarder de 6 minutes en moyenne.
Et pourquoi c'est si exceptionnel, Virginie ?
Vous avez sans doute déjà remarqué que votre horloge de four retardait ou avançait, ça arrive. L'offre d'électricité en Europe n'est pas toujours égale à la demande, mais aussi longtemps, c'est une première. La tension entre le Kosovo et la Serbie dure depuis 2 mois. L'Europe espère un accord diplomatique, mais il faudra encore 1 mois avant de remettre toutes les pendules à l'heure.
Merci Virginie.
RTL Soir, 18h16.
À suivre à 2h45 du grand débat donc entre les candidats à la tête du PS, premier invité d'RTL Soir, le coordinateur du Parti Socialiste, Rachid Temal.
RTL Soir.